Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans une dizaine de minutes et comme chaque premier tumulte de chaque mois, la chronique du chroniqueur à cœur présentée par Xavier. Puis dans 30 minutes, le journal de tumulte avec Guy, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Au programme, le rapport du Conseil d'orientation des retraites, la loi LRU et le pouvoir d'achat. C'est le contenu de ce tumulte numéro 931. Jean au micro, salut. Jennifer Charles, extrait de La Mare Infortuna. On continue avec Tortoise et juste après, ce sera la chronique du chroniqueur à cœur présentée par Xavier. Tortoise, Didgeridoo. Tortoise et dans 30 secondes, ce sera la chronique du chroniqueur à cœur présentée par Xavier. La chronique du chroniqueur à cœur présentée par Xavier.
Je ne suis pas vraiment fier de moi, monsieur Tumultini. Pour des raisons aussi personnelles que privées, et dont les auditeurs n'ont pas grand-chose à faire, je me suis récemment vu dans l'obligation de fréquenter des lieux sinistres, que j'ai plutôt le réflexe d'éviter en temps normal. Ces endroits se situent en général entre des échangeurs d'autoroutes et des quartiers populaires. Ils ressemblent à des verrues qui polluent toutes les agglomérations. On y accède forcément en bagnole, ou si l'on a le courage, ou tout simplement pas le choix, d'y aller à pied, on y met en péril son intégrité physique en traversant d'immenses parkings aussi saturés que glauques. Je suis sûr que vous commencez à comprendre de quoi je veux parler. Il s'agit de ces temples de la surconsommation que l'on désigne sous les termes si poétiques de zone commerciale ou grande surface. Nos auditeurs arrageois penseront aussitôt à une célèbre enseigne située dans les quartiers ouest de notre belle ville. Une célèbre enseigne dont le patron multimillionnaire est exilé fiscal en Belgique et dont le slogan « La vraie vie » atteint des degrés de mensonge et de cynisme inégalés. Mais nos auditeurs de Madrid, de Pékin ou de Mexico verront aussi de quoi je parle, puisque les multinationales de la grande distribution ont fait le pari de défigurer toutes les villes du monde. Les agences de publicité, grassement rétribuées pour faire passer des balivernes absurdes pour des vérités indiscutables, nous présentent les hypermarchés comme des lieux de vie, des endroits qui seraient devenus les nouveaux lieux de socialisation et d'épanouissement. Je pense être normalement constitué et doué d'une intelligence et d'une sensibilité moyenne. Et pourtant, les grandes surfaces me rendent merdique, me dépriment. Ces hangars de tôle dégueulent d'objets qui puent le sang des ouvrières pakistanaises et la sueur des enfants chinois. Leur fréquentation se résume à une agression de tous les sens. Les couleurs y sont vulgaires, la pollution sonore et commerciale vous harcèle les oreilles, les odeurs de plastique, de parking et leurs miasmes publicitaires vous donnent la nausée. Les grandes surfaces sont l'indice le plus flagrant de l'aliénation contemporaine. On y croit être content de remplir son grand chariot de fer de plein de choses à la Pérec. Et malgré tout, sans forcément s'en rendre compte, on en sort toujours plus vide que l'on y est entré. Certains marchands un peu plus futés que les autres ont compris que ces grands magasins finiront un jour par écœurer tous leurs clients. Ils s'efforcent donc de faire durer leur empire en essayant de redorer leur blason. C'est le cas d'une grande enseigne internationale d'aménagement intérieur qui se la joue New Age, bio et cool attitude nordique, bref, qui voudrait nous faire avaler que le business pourrait être altruiste et écolo. Son slogan est « Il n'y a rien de plus important que sa maison ». Les espaces publics qui entourent ces magasins le confirment en effet tristement. Quand l'espace public en est réduit à la vidéosurveillance, aux vigiles, aux bagnoles et aux bitumes, les clients ont logiquement envie de se replier sur leur sphère privée et de ne sortir de leur cocooning que pour engraisser les marchands de confort en toc. Ne le niez pas, monsieur Tumultini, je vous vois sourire à l'idée que ma croisade contre la grande distribution a peu de chances de connaître une victoire prochaine. Je me contenterai pourtant de conseiller simplement à tous nos auditeurs de faire l'effort de les éviter dès qu'ils peuvent, les hypermarchés et autres grandes surfaces. Ils ne tarderont pas à se rendre compte que cet effort, loin d'être une épreuve, est un pas de plus vers l'autonomie et la vraie vie, pas celle de Monsieur Mullier. Le seul motif valable pour s'y rendre, et encore, est d'y pratiquer le vol. Les tristes expériences que je vous décrivais au début de cette chronique auront au moins eu un mérite. Celui de me conforter dans l'idée qu'il n'y a que Monsieur Attali, les membres de sa commission et tous les gens qui ne mettent jamais les pieds dans un hypermarché pour vouloir favoriser le développement de cette mafia obscène qu'est la grande distribution.
A bit free. Kids in halls and the pipes in the walls. make long distance calls. And the silence makes me lonely. I'm lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. Special offer, guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in for a special offer, guaranteed personality. I'm all lost.
C'était la chronique du chroniqueur à cœur présentée par Xavier. Magazine Tumult sur Radio PFM 99.9 en musique avec John Greaves interprète Verlaine Silence Silence.
Thank you.
Henri Texier, Strada Sextet, Reggae Do. Et le rendez-vous jazz de la semaine, c'est le trio de Loïc de Kid, c'est ce mercredi au Théâtre d'Arras.
Thank you.
Le journal de tumulte avec Guy. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1, au programme le rapport du Conseil d'orientation des retraites, la loi et les rues et le pouvoir d'achat. Et pour commencer, on va parler du comité du Conseil d'orientation des retraites, le COR, qui a rendu son rapport au gouvernement, un rapport qui est censé permettre de définir les nouvelles orientations en matière de retraite.
Alors, le Conseil d'orientation des retraites, il était bien prévu qu'il produise un rapport sur l'évolution du financement des retraites suite à la réforme Fillon de 2003. Et il était prévu également un rendez-vous en 2008, puisque la réforme Fillon prévoit un processus un petit peu permanent de révision des réformes qui sont entreprises pour équilibrer les régimes de retraite à l'horizon 2020 et puis 2050. Et donc le COR prépare le débat sur les prochains amendements de la réforme, en produisant un rapport sur les diagnostics qu'on peut faire aujourd'hui et qui sont censés être des diagnostics partagés. Le COR ne dit pas explicitement comment il faut faire pour résoudre entre guillemets les problèmes, mais simplement essaie d'avoir un diagnostic sur ce qui doit être fait et comblé. Bon. Donc ça c'est assez intéressant, il n'y a pas foncièrement d'a priori sur les mesures qui doivent être prises. Bon, simplement, quand on présente les choses d'une certaine manière, on induit des réponses psychologiques a priori, mais ce rapport est tout à fait intéressant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que finalement il fait apparaître qu'à l'horizon 2020, le problème de financement est beaucoup moins aigu que ce qui avait été anticipé ou peut-être exagéré lorsqu'on en parlait il y a 3-4 ans. Alors le problème est beaucoup moins grave parce que entre-temps les questions démographiques se sont un petit peu détendues, en particulier les Français restent des gens féconds. Et donc la natalité continue à être relativement dynamique. Par ailleurs, l'espérance de vie n'augmente pas aussi vite qu'on aurait pu le croire ou le supposer. Et puis par ailleurs, le solde migratoire, dans le cadre d'une politique d'émigration aujourd'hui dite choisie, ce solde migratoire serait plus important que ce qui avait été anticipé à l'époque. Ce qui fait que, grosso modo, le COR dit, pour équilibrer les régimes de retraite d'ici 2020, il faudrait trouver 1% de PIB supplémentaire. Et à partir de là, effectivement, il y a pratiquement deux manières de faire. Soit on accepte des diminutions de pensions d'un point de PIB, pour résoudre le problème par le bas. Soit on pense qu'il faudrait travailler plus pour réussir à produire ce point de PIB supplémentaire, et puis plus, c'est-à-dire plus longtemps, et puis sauvegarder le montant de nos retraites avec le taux de cotisation actuel, ce sont les deux principales solutions. Bon. Alors, le gouvernement, lui, il a dans la tête tout de même que le problème devrait être résolu de la manière dont il l'a déjà résolu il y a 3 ans, c'est-à-dire par un allongement de la durée de cotisation. Pour rétablir cet équilibre, l'idée, c'est grosso modo de faire passer tout le monde de 40 ans de cotisation pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à 41 ans.
Presque tout le monde. Ah, j'ai pas le micro. Si, on m'entend. Presque, qu'est-ce que je dois faire là? Je dois le tourner un petit peu. Hein. Presque tout le monde.
Oui, à qui tu penses?
Il y a encore, il y a encore quelques régimes spéciaux.
Oui.
Donc les 40 ans et vers 41 ans, c'est pas encore complètement à régler pour tout le monde.
Alors tout à fait, et si c'est réglé d'ailleurs, ce sera plutôt 40 ans pour les régimes spéciaux, ce qui fait que les régimes spéciaux resteront spéciaux. Si d'aventure, en 2008, on fait passer les autres à 41 ans.
Alors quand le corps parle d'augmenter les cotisations, toi tu le traduis par augmentation de la durée de cotisation. Est-ce que ça peut pas vouloir dire augmenter le montant des cotisations sur une durée qui reste la même ?
Alors c'est véritablement là que se pose le choix, parce que l'idée de faire passer le temps de travail des gens de 40 à 41 ans risque très probablement d'être une illusion collective. D'ailleurs, le corps a une assez grande honnêteté dans la publication de son rapport, parce que il fait valoir qu'il y a déjà à l'heure actuelle mensonge sur la possibilité d'allonger le temps de travail des salariés d'aujourd'hui à 40 ans. Parce que finalement, depuis que la loi Fillon est passée, on n'a pas constaté dans les faits d'allongement de la durée de cotisation.
La loi Balladur, hein, c'est sur...
Alors, dans un premier temps,
ouais,
la loi
les salariés
Balladur,
du privé.
En 93, oui.
C'est, parce que, bon, de fait, il y a quand même une différence entre le secteur privé et le secteur public. Je pense que dans le secteur public, on va le constater, hein, l'allongement de durée de cotisation. Par contre, dans le secteur privé, et là, c'est pas depuis 2003, c'est depuis 1993.
Depuis 93,
effectivement,
oui.
C'est dans le rapport, je vois que tu as de bonnes sources, Laurent, hein, pour ton intervention. Il n'y a pas d'allongement de durée de cotisation, ce qui est aberrant et ce qui montre quand même, enfin bon, je pense qu'on va y revenir, que la stratégie, c'est pas forcément faire travailler les gens plus, mais c'est les amener à avoir des plus petites retraites, ou alors à devoir compenser ces plus petites retraites par des retraites privées, etc. Et peut-être même remettre en question le système de retraite par répartition. Enfin, je sais pas quel est ton avis là-dessus.
Non, mais on en est exactement là. C'est-à-dire que si on prétend régler le problème des retraites par l'allongement de la durée de cotisation, maintenant on sait qu'on ment. On le sait réellement. Il suffit de se pencher sur les chiffres. Alors, comme on le disait, dans le privé, jusqu'ici, il s'est rien passé. La durée du travail ne s'est pas allongée. Alors, on pourra en dire deux mots. Et évidemment, dans le public, elle va s'allonger. Parce que dans le public, si les fonctionnaires décident effectivement de travailler un an, deux ans ou trois ans de plus, on peut pas leur refuser de le faire. Donc, bizarrement, c'est pour les fonctionnaires que ça va marcher. Et eux vont réellement voir leur durée de cotisation s'allonger. Le corps fait des projections qui sont assez faramineuses. Le corps dit, mais finalement, d'ici 2020, dans le privé, l'allongement de la durée de cotisation sera de 0,2 années. Bon, si tout se passe bien. Alors que dans le public, elle sera de 1 an et demi. Ah oui, parce que dans le public, si vous décidez d'en faire un peu plus, on peut pas vous mettre dehors. Alors que dans le privé, en réalité, on s'aperçoit que les gens n'arrivent pas à allonger leur durée de cotisation parce que on se débarrasse d'eux dans les entreprises avant.
C'est l'offre de travail qui est pas suffisante, c'est tout.
L'offre de travail, effectivement, tout à fait, est pas suffisante. Et puis quand les gens ont un accident de parcours à 50, 55 ans, ils ont un mal fou à retrouver du travail. Ce qui fait que la situation aujourd'hui est absolument ubuesque. Enfin, ubuesque, ce serait rigolo si c'était pas grave. Mais au moment où les gens liquident leur retraite dans le privé, il y en a plus que 40% qui sont effectivement en emploi. Tous les autres, eh ben, soit ils ont quitté la vie active parce qu'ils avaient perdu tout espoir de retrouver du travail, soit ils sont au chômage. Donc on comprend très bien que pour les salariés du privé, on est véritablement dans le mensonge quand on leur raconte que ben, demain il faudra qu'ils cotisent un an de plus. Bon. Déjà, c'est pas possible aujourd'hui. Et alors, quelle est la traduction concrète de ça ? Ben, c'est que vous ne cotiserez pas un an de plus. Mais par contre, votre retraite, elle va être calculée en comptant que vous auriez dû cotiser un an de plus. Et qu'est-ce que ça fait en moins ? Ben, ça fait en réalité une diminution de votre pension de retraite. Parce que vous auriez dû cotiser un an de plus, mais vous l'avez pas fait. Donc vous perdez 2% de votre retraite parce que vous avez une année de cotisation en moins, et vous prenez 3 points de décote parce que vous êtes parti un an en avance. Voilà. Et la décote est censée inciter les gens à travailler plus. Mais comme ils n'ont pas le choix, c'est vraiment la double peine. Donc, effectivement, si on part sur la solution du gouvernement ou du MEDEF, le MEDEF, lui, il dit il faut aller à 42 ans et demi tout de suite. Donc, bon, c'est jamais avec le dos de la cuillère. Mais si on part sur cette base-là, on a l'assurance maintenant que c'est la même chose que de dire aux salariés, aujourd'hui, nous diminuons vos pensions de 5%. Donc la seule alternative, c'est d'accepter une augmentation des cotisations retraite.
Alors Laurent, avant de revenir sur l'augmentation des cotisations, en ce qui concerne les salariés du public, eux, ils pourront effectivement prolonger leur durée de cotisation, mais est-ce que on va pas avoir simplement un phénomène? Est-ce qu'ils vont le faire effectivement? C'est-à-dire que le droit à partir à la retraite à 60 ans subsiste.
Oui.
Donc est-ce que on va avoir des gens qui en auront tellement marre à 60 ans? Bon, on pense évidemment dans la fonction publique aux gens, je ne sais pas moi, par exemple dans la fonction publique territoriale, bon, ou le milieu hospitalier, ou le milieu de l'enseignement.
Ou la police.
On imagine mal des gens qui ont ce type de boulot poursuivre leurs années de professionnelles au-delà de 60 ans, à 62 ans, 63 ans, par exemple, un prof face à des élèves à cet âge-là.
Oui.
Est-ce que c'est concevable? Alors,
exactement, mais là, je ne sais pas comment le corps a établi sa projection dans le détail, ouais. Mais les fonctionnaires qui sont tenus de faire à l'horizon 2020, si on allonge encore d'un an la durée de cotisation, ils seraient tenus de faire 4 années un quart de plus. En réalité, le corps dit que ce ne sera pas 4 années un quart, ce sera 1 an 3 quarts. Bon. Donc ça veut dire qu'effectivement, aussi pour les fonctionnaires, on est en train de leur raconter de très très grosses histoires. Alors ceci dit, avec un côté stratégique assez nauséabond, qui est de dire, oui, mais eux, ils l'auront choisi. Ils l'auront choisi parce que s'ils font pas 4 ans de plus et qu'ils n'en font qu'un an 3 quarts, c'est qu'ils auront fait leur calcul, ils auront pris en compte les années de cotisation en moins, ils auront pris en compte la décote et finalement... ces gens-là, on les aura pas foutus dehors et ils l'auront choisi. Alors, c'est évidemment quelque chose, un discours aussi assez stratégique, parce que, comme tu viens de le dire, pour la plupart des fonctionnaires, dans leur calcul, il y a en réalité la pénibilité de leur travail et l'impossibilité de faire ce travail-là passer un certain âge. Je sais que c'est un discours qu'on a du mal à faire passer dans la population, mais il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont des travaux très très durs. Tu citais les infirmières, on peut citer les enseignants, en particulier les enseignants du secondaire, on sait que c'est quand même pas une sinécure. Le travail dans la police est quand même de moins en moins gratifiant et de plus en plus dangereux et de plus en plus stressant. Bon,
Il y a des ouvriers dans la fonction publique.
Et ça, c'est ça les fonctionnaires, c'est pas une abstraction, c'est des gens qui font des boulots très stressant pour une raison simple, hein, c'est qu'ils ont affaire au public. Quand vous n'avez pas affaire au public et que vous avez affaire aux machines et à la technologie, c'est parfois un peu plus calme. Bon, vous avez évidemment un patron qui vous stresse, etc. Mais les boulots où on est en contact avec le public et grosso modo la misère du monde, c'est des boulots qui deviennent, eux, extrêmement pénibles.
Alors, en ce qui concerne l'augmentation des cotisations, tu dis c'est l'équivalent d'un point de PIB, c'est ça?
Oui.
Donc, si c'est pas fait en termes de durée de cotisation, si c'est fait en quantité de cotisation payée chaque mois sur le salaire, est-ce que ça provoque une augmentation de ces cotisations qui est intolérable?
Non, là c'est carrément...
Qu'est-ce que ça veut dire pour un salarié?
C'est quasiment indolore, parce que si on supposait que les salaires augmentaient au rythme des gains de productivité, bon... Ça voudrait dire que le partage de la valeur ajoutée cesse de se dégrader en défaveur des salariés. Mais supposons que les salariés arrivent à voir augmenter leur salaire au rythme des gains de productivité du genre 2% par an. Bon. Eh bien, sur ces 2%, il faudrait qu'ils en consacrent 0,4% à l'augmentation de leur cotisation retraite. Ce qui leur laisserait tout de même 1,6% d'augmentation de leur pouvoir d'achat annuel. En tendance. Donc, c'est quelque chose qui ne viendrait pas annihiler les augmentations possibles de pouvoir d'achat gagées sur des gains de productivité bien réels, hein, et qui peut être, entre guillemets, relativement indolore, compte tenu de l'enjeu. Parce que l'enjeu est quand même assez abyssal. Si on reste sur les bases actuelles, le corps a calculé que, en gros, le décrochage ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire le montant des retraites sur le dernier salaire, ce décrochage, il va encore être de 20 points à l'horizon 2020. C'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir une chute de 75% d'un taux de remplacement qui est de l'ordre de 75%, un taux de remplacement qui tomberait à 55%.
Tu peux préciser, là, Laurent?
En grosso modo, aujourd'hui, un salarié, en moyenne, part en retraite avec 75% de son dernier salaire, à peu près. Et si on laisse les règles de calcul telles qu'elles sont là...
C'est-à-dire si on n'augmente pas les cotisations.
Si on n'augmente pas les cotisations.
D'une manière ou d'une autre.
D'une manière ou d'une autre. Et si les gens prennent bien leur départ à la retraite comme il est dit dans les projections. C'est-à-dire finalement n'arrivant pas à allonger leur durée de retraite. Mmh. On va avoir une baisse dramatique des taux de remplacement. Il sera plus de 75%, mais on risque de tomber en dessous de 60%, voire même 55%. Mmh. Bon, alors là, je vous laisse imaginer tout de même le décrochage. Ceci sans parler du décrochage ultérieur, parce que lorsqu'on indexe ensuite les pensions sur les prix et non pas sur les salaires, les retraités voient leur niveau de vie relatif par rapport aux salariés décrocher également. Parce que les salariés, eux, ils continuent, bon an mal an, à être augmentés au rythme des gains de productivité, mais les retraités, eux, ils sont augmentés au rythme de la hausse des prix. Donc, les retraités doivent tirer un trait, c'est les règles d'aujourd'hui, hein, doivent tirer un trait jusqu'à leur mort sur toute augmentation du pouvoir d'achat.
Dans le privé.
Dans le privé, alors là, tu me poses une colle. Mais
parce qu'on parle beaucoup de baisse de pouvoir d'achat, notamment dans le public. Hein,
il y a eu tu me poses une colle. Je me demande si
actuellement
dans la fonction publique,
c'est indexé sur les salaires.
Sur le point.
C'est indexé sur les salaires. Mais ce qui est en question justement, c'est le passage à l'indexation sur les prix.
Oui. Mmh.
Je sais que ça a été mis en question dans les négociations sur la suppression des régimes spéciaux de SNCF.
Oui, mais là déjà pour les retraités du privé, on y est.
Oui,
Au mécanisme d'indexation sur les prix, disons bien. Donc effectivement, sur le public, ça peut venir. Bon. Donc voilà l'enjeu. Enfin, il semble qu'à lire ces choses-là, on devrait réussir à avoir un débat public de qualité, mais normalement, la solution, si on n'essaie pas de truander, la solution devrait tout de même être d'avoir un consensus sur l'augmentation des cotisations.
Là, actuellement, la revalorisation... Si bon, hein, j'ai un document là que j'ai récupéré dans un numéro récent du Monde. La revalorisation, c'est sur l'inflation pour le privé depuis 93, sur l'inflation dans le public depuis, pour le public depuis 2004.
D'accord.
Donc c'est fait.
Mais si les salaires du public augmentent moins que l'inflation en proportion.
Ah bah en plus, oui. Alors là, effectivement.
Parce
oui.
que la question du pouvoir d'achat, c'est ça. Enfin, hein,
oui.
Donc. Un mot aussi sur le taux de cotisation. Hein, Jean, c'est ce que tu évoquais, mais il faut quand même savoir qu'actuellement, le taux de cotisation n'est pas le même dans le public, dans le privé, et surtout pour les régimes spéciaux. Et ça, je pense qu'on en a peu parlé. Par exemple, le taux de cotisation pour les salariés à la SNCF, c'est 12,13% du salaire, hors prime. Dans le privé, actuellement, on est entre 10,35% et 10,55% du salaire. Donc,
ils payent leur régime spécial en quelque sorte.
Bah voilà, c'est ça. Hein, on parle de privilèges davantage, mais bon, c'est un contrat. Hein, c'est du donnant-donnant. Donc, le taux de cotisation des régimes spéciaux, enfin, la SNCF, mais c'est pareil pour la RATP et pour EDF. Le taux de cotisation est plus élevé des salariés. Après, il faut voir aussi le taux de cotisation des. Les employeurs. Et ça, bien sûr, on l'oublie hein, quand on dénonce le privilège de certains.
Laurent, pour terminer, une question, je reviens en arrière. Le corps organisme indépendant, première question, et puis deuxième question. Et puisqu'il avait déjà produit un rapport précédant la réforme Fillon, est-ce qu'il avait fait consensus sur l'analyse, sur le diagnostic de la situation? Est-ce que là, son diagnostic va faire consensus? Après, la question des mesures, c'est une autre chose.
Mais, oui, apparemment, c'est une institution qui est de type, on pourrait dire finalement, c'est une forme de démocratie participative, si on pouvait un peu déniaiser cet objet. C'est une forme de démocratie participative, c'est-à-dire que dans le Conseil d'orientation des retraites, il y a des syndicats ouvriers, il y a des syndicats patronaux, il y a des représentants du Conseil économique et social, il y a des parlementaires, et il y a des experts. Et puis, le but est bien... d'essayer d'obtenir un diagnostic partagé sur la situation actuelle, mais aussi sur les projections qu'on peut faire, parce que le problème, c'est qu'on est quand même dans la prospective, sur des projections de type démographique, et ensuite sur des scénarios. Bon. Alors, sur les scénarios, on peut pas avoir un consensus, sauf qu'on peut essayer de bâtir des scénarios qui sont proposés par les uns et qui sont proposés par les autres, et les tester. Et c'est en gros ce que fait le corps. Donc il n'y a pas accord sur tous les points, mais chacun, dans le travail du corps, peut retrouver les arguments dont il va avoir besoin ensuite pour alimenter le débat politique. Et il se trouve que ces travaux sont peut-être un bel exemple d'animation du débat démocratique, Bon, et ensuite la puissance de feu des uns et des autres et la puissance d'argumentation et leur relation aux médias aussi font que le débat part dans une certaine direction ou pas. J'espère tout de même que cette fois-ci, on le dit pour une troisième fois, le leurre de l'allongement de la durée du travail va être levé, purgé, etc. Mais là, il va falloir que nos vedettes médiatiques se renseignent un tout petit peu et aillent mettre les mains dans le cambouis. Peut-être qu'on peut encore espérer.
Mais deux petites questions aussi rapidement. Une générale, tu viens un peu d'y répondre, mais j'aimerais que tu y reviennes. Donc 37 annuités et demie de cotisation pour tous, public, privé, imposture ou pas imposture pour toi, Laurent.
Et 37 années et demie.
Ouais.
Oui,
revenir à la situation de 93, quoi, hein, ce qui a été revendiqué par certaines organisations syndicales. Bon, dès qu'on entend ça, beaucoup d'économistes réagissent, lèvent les bras au ciel, imposture, etc. Bon, je sais pas quelle est ta position là-dessus, mais moi je pense que bon, économiquement, c'est une position défendable, hein, en faisant d'autres choix de répartition des richesses. Enfin, je sais pas, tu vas nous donner ton avis là-dessus. Avant, un mot rapide sur le rapport du corps. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ce rapport fait état d'une dégradation à court terme des comptes, hein, du régime général des pensions, dû notamment au départ anticipé pour carrière longue. En fin de compte, dans la loi Fillon, une seule mesure un peu positive. Et à côté de ça, le corps, tu l'as dit, constate que de toute manière, les salariés n'arrivent pas à travailler plus, quoi. Alors, effet d'annonce, on essaie d'accabler encore plus ceux qui, commencent tôt leur carrière professionnelle, souvent dans des métiers pénibles. On va essayer de leur faire porter le chapeau des déficits des comptes du régime général. Enfin, comment tu vois ça?
Oh, je pense pas qu'il y ait peut-être de stratégie. Enfin, pour prendre la deuxième question, je pense peut-être pas qu'il y ait une stratégie qui va dans ce sens-là. C'est vrai que les anticipations qui avaient été faites ont sous-estimé ces départs anticipés qui pouvaient bénéficier des carrières longues. Et donc le dispositif a été plus cher que ce qui a été anticipé au début. Mais c'est quelque chose qui est d'abord conjoncturel, ça va pas se reproduire. Et socialement et politiquement, il y avait quand même un assez large accord sur le fait qu'il fallait se le payer, entre guillemets, cette chose-là. Donc bon, je pense que c'est à mettre au passif de personne, au contraire. Un pays développé comme le nôtre pouvait au minimum faire cette chose-là. Et puis sur l'autre question...
Les 37 annuités, oui, et demi.
Alors pour y répondre, il faudrait d'ailleurs prendre la moyenne aujourd'hui. Combien les gens cotisent effectivement aujourd'hui en moyenne, et on va peut-être trouver que c'est même pas 37 années et demi. Bon. Donc, d'une certaine façon, ceux qui disent « revenons aux 37 années et demie », il vaudrait mieux dire « organisons ».
Ouais, mais 37 années, annuités et demie à tout plein.
Oui, voilà, ah. Mais organisons correctement ce qui est déjà le cas, ce qui est déjà inscrit dans les faits, et plutôt partons des faits plutôt que d'avoir des slogans. Pour ma part, mais je ne demande pas à toute la population française de partager mon point de vue, je peux penser qu'il serait raisonnable, à partir du moment où la durée de vie s'allonge et qu'en plus on nous garantit une qualité de vie meilleure plus longtemps, c'est pas simplement un allongement de la durée de vie dans de mauvaises conditions, je ne serais pas contre l'idée que des travailleurs faisant des travaux intéressants, de qualité, bien rémunérés dans des conditions de travail normales puissent travailler plus longtemps s'il y a de l'emploi. Bon. Mais effectivement, si on n'est pas capable d'assurer tout ça, c'est un leurre. C'est un leurre. Et ça fait quand même énormément de si.
Mais tu revendiques quand même des régimes spéciaux, hein, puisque tu parles de l'allongement de durée de vie. Mais par exemple, à 60 ans, on sait très bien que cet allongement, bon, déjà, on arrête, hein, cet allongement n'est pas le même pour tout le monde. Et l'espérance de vie, il y a des grosses différences.
Et c'est
entre
l'un des plus gros scandales. C'est l'un des plus gros scandales de ces discussions lorsqu'elles ne parviennent pas à mettre ça sur la table, parce qu'il reste encore des écarts d'espérance de vie énormes entre, par exemple, un ouvrier et un cadre dirigeant. C'est de l'ordre de 3 à 4 ans.
suite du journal de Tumulte sur Radio PFM 99.9. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'Université Lille 1. Et on va parler justement de l'université et de la loi LRU. Alors, loi LRU, tiens déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Guy? On va demander à Guy. LRU.
Bon, là, c'est qui l'invité, genre?
Non, mais c'est toi que je colle, je vais pas coller le.
C'est quoi?
Je vais pas coller
Qu'est-ce que tu t'interroges celui qui m'a interrogé. Loi de régulation. De régulation.
Alors, c'est la loi liberté et responsabilité des universités.
C'est pas du tout la régulation, hein. C'est de la dérégulation plutôt.
C'est un beau nom, hein.
C'est plutôt de la dérégulation.
Alors, on a pas mal parlé de cette loi. En fait, on en a assez peu parlé. Finalement, on a beaucoup parlé de du mouvement étudiant. Très peu du mouvement des personnels qui a existé. Bon, on pourra en parler sur ton université, Laurent. On a surtout parlé donc du mouvement, de la question des modes d'action du mouvement étudiant, mais assez peu du contenu et des enjeux pour l'université. Alors bon, on va essayer un petit peu de se situer sur ce point-là, ce que n'ont pas fait en règle générale beaucoup de médias.
Alors disons que les deux piliers principaux de cette loi consistent à donner sous le vocable de plus d'autonomie aux universités, en réalité, plus de pouvoir au président de l'université, avec un conseil d'administration resserré dans l'université, un rôle minoré des deux autres conseils dans la gouvernance des universités, qui sont le conseil de la vie et des études et le conseil scientifique, qui deviendraient des organes un petit peu consultatifs du conseil d'administration. Et dans ce conseil d'administration resserré, il y aurait une part beaucoup plus importante qu'aujourd'hui des personnalités désignées et non pas élues. Et puis, au-delà de ces pouvoirs renforcés, alors dans les pouvoirs renforcés du président, qu'est-ce qu'il y a? Mais en gros, il y a quasiment la possibilité de recruter les enseignants-chercheurs de l'université, c'est-à-dire de construire pratiquement à sa main les commissions de recrutement de l'ensemble des personnels, et donc y compris des personnels qui sont tout de même importants à l'université, les enseignants-chercheurs. Hein. Donc de formater les commissions qui vont faire ce type de recrutement. Et puis dans les pouvoirs étendus du président, il y aura aussi la possibilité de recruter sur des contrats à durée indéterminée, c'est-à-dire hors statut fonction publique. Alors non seulement contrat à durée indéterminée, mais CDD aussi, avec seulement quelques garde-fous sur la masse salariale que c'est censé représenter. Donc ça, c'est un premier pilier. Autonomie, en réalité, pouvoir plus étendu du président de l'université et de son conseil d'administration. Et puis, deuxième aspect assez fort de la loi, essayer de susciter un financement de l'université qui viendrait davantage du privé, à travers en particulier le rôle des fondations, qui pourraient être alimentées par des fonds venant d'entreprises, des dons d'entreprises, entreprises d'ailleurs qu'on incite par un forte incitation fiscale qui s'appelle le crédit recherche, crédit d'impôt recherche, en gros un abattement de 66% d'impôt pour les sommes versées à ces fondations. Voilà, ça c'est les deux grands éléments de contenu de cette réforme.
Alors, une réforme qui est censée répondre à quel besoin, quels enjeux, en fait, parce que c'est un peu ça qu'on peut se demander, parce que, en fait, les termes que tu cites, on a l'impression que c'est des mécanismes qui existent déjà au sein de l'université en France. Bon, simplement, il y aurait, le bouchon serait poussé un petit peu plus loin, on systématiserait un petit peu cette question, parce que bon, le recrutement des personnels, par exemple, il est quand même très très local à l'université, non?
Oui, mais il n'est pas dans la main du président.
Voilà, bon. Donc la question clé pour toi, c'est celle-là.
Ah bah, c'est tout de même extrêmement important. Pour l'instant, l'université...
Le président qui est quand même élu, non?
Alors, le président, effectivement, le président restera élu par son conseil d'administration. Alors là aussi, si on rentre dans les détails de la loi, avec d'ailleurs un drôle de système électoral qui est comparable à celui des municipales ici. C'est-à-dire que la liste arrivée en tête prend la majorité des sièges Donc c'est les pairs, hein, qui élisent leur conseil d'administration et le président. La liste arrivait en tête, mais attention, dans un scrutin proportionnel, prendrait la moitié des sièges et participerait ensuite à la répartition proportionnelle du reste des sièges. Donc quasiment, si vous avez 5 listes en compétition et que la première liste a fait 21% et donc toutes les autres, avec 21%, elle a 75% des sièges. Bon, donc on voit qu'elles peuvent être aussi la logique de constitution des listes une fois qu'on a mis cette règle du jeu en place. Bon, donc le président peut avoir quasiment un conseil d'administration à sa main, s'il a bien fait les choses, et ensuite il a effectivement le pouvoir de monter les commissions de recrutement qui vont choisir les enseignants-chercheurs, alors qu'à l'heure actuelle on est dans un système beaucoup plus paritaire, c'est-à-dire ce sont les enseignants-chercheurs eux-mêmes qui, à travers des commissions de spécialistes elles-mêmes élues, choisissent de recruter leurs pairs, normalement sur critères académiques et de performance en termes de réussite. Évidemment, ceci est contesté. Ceci est contesté que les pairs recrutent toujours les meilleurs parmi les meilleurs. Et en gros, ce qu'on dit, c'est que la logique est relativement boutiquière, c'est-à-dire que les universités recrutent comme maître de conférence les gens qu'elles ont formés dans leur université en thèse. Bon. Mais c'est pas forcément en donnant plus de pouvoir au président de l'université, on aura peut-être une logique moins boutiquière entre guillemets, mais on aura peut-être une logique clientéliste ou on ne sait quoi qui viendra se substituer à ça. Donc ça, alors, c'est un premier élément.
Ouais, oui. Ma question c'était au départ, c'était à quels enjeux est censé répondre cette...
C'est franchement, quand on se penche, on se le demande. Enfin, sans y mettre de la mauvaise foi, on se demande véritablement à quel type d'enjeu c'est censé répondre. Il semble tout de même que sous couvert d'accroissement de l'autonomie des universités, finalement, on essaye d'établir un autre principe d'ordre à l'intérieur de l'université. C'est-à-dire, en gros, un chef qui redistribue l'ensemble des cartes et qui peut redistribuer les moyens à l'intérieur de son université et qui rompt avec le système, disons, paritaire ou partenarial ou démocratique de fonctionnement de l'université antérieure. On pourrait dire, c'est en interne, c'est de la gouvernance, mais de la gouvernance qui remettrait un ordre hiérarchique et pyramidal au sein de l'université. Et puis, sur les financements privés, on pourrait dire... l'idée, c'est l'État, grosso modo, après avoir fait toutes les baisses d'impôts qu'il a fait pendant les 20 dernières années, il aimerait bien trouver d'autres sources de financement pour l'université, et il fait miroiter la possibilité d'un financement privé. Donc la logique qui serait derrière ça, c'est allons chercher des secours au-delà simplement de la manne de l'argent public. C'est ça la logique. Bon, au-delà, je suis pas sûr qu'il y ait une stratégie complètement construite sur l'avenir de l'université. Ce qu'on peut dire, peut-être en anticipant un peu les choses, c'est que grosso modo, tel que c'est prévu, les financements privés vont pas se raconter d'histoire, ils vont pas se mettre à affluer comme ça. Les entreprises vont pas se mettre à arroser les fondations universitaires parce qu'il y a un bonus de 66% sur les sommes qu'elles auront versées. Pour quelle raison ? Parce que elles ont d'autres choses sur le marché à financer. Les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles, leur propre formation, etc. Donc qu'est-ce qui ferait qu'elles se précipiteraient comme ça pour financer une université de masse ? Bon, qui, il faut bien le dire aujourd'hui, n'a pas attendu ce type de financement pour offrir des formations professionnalisées dont les entreprises sont relativement contentes tout de même. Bon, et ça on le dit pas évidemment, c'est pas politiquement correct. Et sont bien souvent partie prenante, puisque dans ces formations enseignent des professionnels qui viennent de l'entreprise, et au niveau d'un master deuxième année, ces professionnels, ça peut être entre 30 et 70% du corps enseignant. Bon, donc ce qui peut se passer, c'est que un certain nombre de grandes universités bien engagées dans la compétition internationale, sur la recherche, sur des niches spécifiques de formation, puissent effectivement attirer plus de ressources privées que les autres. Alors, là, on ne sait pas quel effet ça peut produire. On pourrait dire, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, les fondations privées, en moyenne dans l'université publique américaine, c'est à peine 6 à 7% du budget des universités. Donc, pour un pays qui est libéral et qui a plutôt une tradition de financement extra-public de ses œuvres publiques, on peut dire que c'est peut-être un maximum. Si jamais en France c'était 3 à 4% du budget des universités et qui se concentrait sur une dizaine d'universités, ça va pas changer la donne du point de vue du financement. Par contre, ça pourrait changer la donne du point de vue des logiques que ça induit. Parce que vous aurez toujours des gens pour vous dire « Ah bah oui, mais si on continue comme ça, on n'aura jamais de financement privé. » Bon. Et donc, pour courir après l'épaisseur du trait, ça peut réorganiser énormément les mentalités. Déjà aujourd'hui, où cette logique n'est pas complètement installée, vous avez toujours des collègues qui vous disent « Ah oui, mais si on fait pas ça, l'université d'à côté va le faire. » Et ils vont nous piquer nos étudiants. Pour l'instant, c'est pas les frics du privé qu'on nous pique, c'est nos étudiants. Bon. Et donc, l'esprit de concurrence est déjà enraciné sous des trucs extrêmement mineurs. Hein. Et donc, il suffit de dire, il faut se battre un petit peu pour du financement privé, et puis ça peut réorganiser des logiques, alors qu'au bout du compte, le robinet qui va couler sera peut-être un petit goutte à goutte. Donc ça, c'est peut-être un enjeu extrêmement pervers de cette loi.
Pas vraiment stratégie, tu dis, Laurent, mais en tout cas un paradoxe. Bon, et peut-être quand même une stratégie, on va y revenir. Je reprends une formule d'un de tes collègues, Philippe Corcuff, qui dit que la loi Pécresse, donc la loi LRU, repose sur une alliance dangereuse entre la bureaucratie universitaire et le marché. Bon, la bureaucratie universitaire, hein, tu l'as évoqué. Je pense qu'il faut même être plus précis que ça. Bon, c'est accroissement du pouvoir du président de chaque université. Un président, bon, ça a été dit, élu par un conseil d'administration, mais un conseil d'administration qui est aussi remodelé. Et notamment, bon, je sais que c'était une des causes de la grogne des étudiants, qui est toujours, c'est leur représentation diminue en pourcentage. Hein, le nombre de représentants des étudiants dans les conseils d'administration des universités baisse avec cette loi. Donc, renforcement du pouvoir du président et modification aussi de la structure du conseil d'administration qui désigne ce président. Donc, la bureaucratie universitaire, on le sent bien. Donc, quelque part, c'est paradoxal, puisqu'on l'associe à un développement du marché. Tout à l'heure, bon, je parlais de dérégulation, régulation, dérégulation. On assiste quand même bien à ça. Alors, c'est sûr que, bon, c'est pas demain que l'université va devenir privée en France, mais néanmoins, il y a quand même une forte dérégulation qui est prévue, avec comme point de mire le modèle de l'entreprise, qui est quand même le modèle qui base la politique actuelle, le modèle de l'entreprise, de l'investissement privé. Alors, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas aussi volonté de casser un petit peu cet ensemble, le mouton noir, l'université, les étudiants qui ont quand même fait un milieu qui a quand même fait chuter la réforme du CPE, par exemple, il y a 2 ans, qui reste un milieu de concentration d'une contestation, d'une contestation au modèle, effectivement, au modèle de l'entreprise, au modèle libéral de l'entreprise.
C'est possible que tout ceci n'ait pas augmenté la sympathie des gouvernements de droite pour l'université. Donc ça, j'en doute pas. Je ne sais pas s'il y a un projet aussi machiavélique derrière, mais je suis toujours peut-être naïf. Mais c'est certain qu'en tous les cas, ce qui s'est passé au moment du CPE en particulier n'a sûrement pas augmenté l'ardeur des gouvernements libéraux à financer l'université. Mais il me semble que la position de Corcuff que tu donnes me gêne un tout petit peu pour une raison simple. C'est que il ne me paraîtrait pas anormal que les entreprises, le privé, financent l'université. Pour quelle raison? Parce que d'ores et déjà, l'université, au-delà de ses cycles de licence, donc au-delà des 3 premières années, grosso modo, offre à ses étudiants des formations qui sont professionnalisantes. Et donc, finalement, le but est quand même de faire des gens... des étudiants, des gens aptes à aborder le marché du travail. Bon, donc l'université fait un boulot à cet endroit-là qui est orienté vers les besoins de l'entreprise. Et ce qui est anormal, c'est que les entreprises finalement ne financent pas beaucoup les universités de ce point de vue-là. Et donc ce qu'il faut travailler, c'est l'interface. Comment on fait? Et en particulier, il y a un impôt en France qui est tout de même assez intéressant, qui est la taxe d'apprentissage. La taxe d'apprentissage, c'est un impôt payé par les entreprises et qu'elles peuvent éventuellement orienter sur tel ou tel type de formation. Bon, ben disons sur cet impôt...
Sur tel ou tel établissement.
Ou tel et tel établissement. Et à l'intérieur de l'établissement, telle ou telle formation. Mais sans faire la loi à la place de Mme Pécresse, on pourrait tout de même dire, on peut augmenter cet impôt. Déjà. on peut en réserver 50 à 60% pour l'université. Pourquoi on dirait pas que il faut mettre une cloison et dire attention, quand vous faites vos choix, il y en a au moins 50% pour les universités. Et ensuite, bah, vous êtes peut-être libre de donner à l'université ou à la formation de votre choix, mais on pourrait aussi être d'accord qu'à l'intérieur même des universités, on resocialise une partie de cette taxe qui tombe sur certaines formations, pour redéfinir politiquement à l'intérieur de l'université quelle formation on veut soutenir et quel autre type de formation se soutient d'elle-même. Bon, il y a des choses à faire et ce qu'il faut travailler, c'est l'interface. Comment cet argent privé rentre dans l'université et comment on peut effectivement avoir des relations partenariales.
Comment il devient public?
Comment il devient public mais en même temps, on voit bien qu'on a affaire à un bien public qui est public et privé à la fois. Disons qu'il y a trois acteurs qui en bénéficient de ces formations. Il y a évidemment, on pourrait dire, la nation en général, qui a intérêt à avoir une population avec un niveau relativement qualifié. Il y a les entreprises qui en bénéficient, parce qu'il y a une partie de cet argent qui sert à former des gens pour l'entreprise. Et puis il y a les étudiants eux-mêmes. Quand votre niveau de salaire espéré à la sortie, entre le niveau licence et le niveau maîtrise, il gagne 1000 euros... c'est pas totalement du bien public que vous produisez. Vous produisez une augmentation de salaire pour celui qui suit la formation. Donc tout ceci, il faut pas en parler de manière pudibonde. Il n'y a plus que du bien public. On n'est plus seulement sur un bien public à cet endroit-là. Mais simplement, il faut soigner les interfaces. Et puis il y avait d'autres dispositifs que ce crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, c'est quand même scandaleux cette affaire, parce que grosso modo, quand l'État à 600 millions à mettre dans les universités, il dit aux entreprises, je vous en passe 400 millions et vous en faites ce que vous voulez. Grosso modo, c'est ça, puisque les deux tiers de ce que vont mettre les entreprises seront payés par l'État. D'accord. Bon. Donc c'est une délégation de l'affectation de l'impôt aux entreprises. C'est absolument hallucinant. Alors qu'il y a un impôt qui existe, qui s'appelle la taxe d'apprentissage, et qui pourrait être réformé sur ce point.
On peut encore dire un petit mot là sur Jean, tu posais la question. Bah vas-y Jean, oui, tu veux poser une question.
Vas-y,
continue. Non, il y a pas de problème hein. Jean, je vois que tu étais allez, vas-y Jean.
Non, parce que en fait, je posais la question au départ sur l'enjeu de la réforme, mais plutôt quel est l'enjeu pour l'université aujourd'hui? Quel est le problème de l'université?
Mais cette réforme ne règle aucun problème.
Non, mais elle règle aucun problème, mais
l'enjeu est simple. L'enjeu est simple pour l'université, et donc sans même parler des bricolages dont on a parlé sur la taxe d'apprentissage, l'enjeu est beaucoup plus simple, c'est que cette université française est sous-financée par ses dotations publiques. Elle l'est quasiment, si on compare aux universités d'État américaines, en gros l'État met quasiment deux fois moins par étudiant en France. D'accord. Et surtout, si on compare à d'autres branches du système scolaire français, si on compare aux classes préparatoires, qui sont donc dans les lycées, classe préparatoire aux grandes écoles, ou si on compare aux BTS qui sont dans les lycées, en gros, il y a un écart de 40 à 60% entre l'université et ces formations-là. Je vais prendre des accents sarkoziens. À qui peut-on expliquer ça? Hein? Madame Arlette Chabot, à qui peut-on expliquer ça? Mais on en est là, c'est impossible. Parce que justifier une telle situation, c'est dire qu'il peut y avoir dans l'enseignement universitaire une zone de seconde zone où on ne met pas le même argent public pour les étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils viennent pas des mêmes milieux sociaux. C'est quasiment la seule explication. Bon. Et donc, alors, voilà, c'est ça le problème de l'université. C'est augmenter de 40% à 50% les moyens par étudiant de l'université sur fonds publics. Je dirais, après, on pourra causer de tout et on s'apercevra que tous les problèmes sont résolus, que c'est plus la peine de faire des réformes. Et j'insiste sur un point. L'université est vraiment très maltraitée, parce qu'elle a réussi en 20 ans à faire ce que personne n'aurait pu parier il y a 20 ans, c'est grosso modo à doubler les effectifs de ses étudiants, à devenir véritablement une université de masse, à faire sortir, en gros, après le barrage de la première année, qui fait chuter 30 à 40% des gens, et ça c'est un vrai problème dont il faudrait discuter, mais à faire sortir tout le reste de l'université avec des diplômes de bac plus 4 et bac plus 5. Et avec des gens qui trouvent du travail en moyenne entre 3 mois et 6 mois après leur sortie. Donc cette université a réussi quelque chose d'incroyable en France. Et grosso modo, ça a reposé uniquement sur ses personnels, lesquels sont aujourd'hui d'ailleurs parmi les plus maltraités d'Europe. Bon. Donc tout ça marche cul par-dessus tête. Le seul problème de l'université, c'était de lui donner un petit peu plus les moyens de fonctionner, de surtout ne pas démoraliser les gens qui y sont, parce qu'ils sont quand même à plat nerveusement, ces gens-là. Bon. Et donc il n'y avait que ça à faire, les mettre un petit peu en confiance pour continuer à pouvoir bosser.
Ouais, moi, c'est là-dessus que je voulais intervenir aussi. Hein. Bon, et quand Laurent interpelle Arlette Chabot, c'est, il te regarde. Hein, genre, non, mais c'est vrai que je voulais intervenir là-dessus. Genre, tu posais la question, pourquoi cette réforme? Pourquoi? Mais parce que là, il y a quand même, on constate, il y a un échec au niveau universitaire, et notamment, effectivement, dans les premières années, il y a quand même beaucoup de jeunes, des étudiants qui ne bénéficient pas, enfin qui ne profitent pas de cette formation. Mais effectivement, moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que la réponse est complètement en décalage par rapport à la réalité du problème. Tu l'as dit, on ne parle pas de la concurrence entre des différentes voies de l'enseignement supérieur, les grandes écoles, l'université, etc. On compare souvent ce qui se passe à l'étranger. Bon, tu l'as dit, l'université française, elle est nettement moins de moyens par étudiant. Hein, c'est vraiment impressionnant. On oublie aussi de dire, même en termes de contenu d'enseignement. Hein, et c'est pour ça que le modèle quand même de l'entreprise dans l'université, pour moi, c'est pas du tout la réponse adéquate. J'entendais il y a peu de temps des étudiants anglais, évoquer leurs études supérieures, leurs études universitaires. Mais en Angleterre, on est étudiant. Bon, déjà, quand on est étudiant, on est à l'université. Hein. On n'est pas soit dans une grande école, soit à l'université, soit je sais pas où. Hein. On est à l'université. On peut suivre des cours de latin, de littérature française, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et à l'issue de ces études, intégrer une entreprise pour travailler dans le secteur commercial. Et chez nous, c'est complètement impensable. On a complètement abandonné l'idée d'apporter aux étudiants de la culture, de la connaissance, des capacités de critique, etc. On est dans une logique de mouler les jeunes aux besoins de l'entreprise. Et c'est pas forcément la solution, et même c'est pas forcément la solution qui est adoptée ailleurs.
Bon, c'est un débat qu'on pourra effectivement reprendre, mais bon, je reste persuadé qu'au moins dans le cursus de licence, on donne aux étudiants une très bonne culture générale disciplinaire. C'est-à-dire, on leur apprend une discipline. Et ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement précieux. Que les gens aient dans la vie un camp de base à partir duquel ils puissent décrypter le monde. Que ce camp de base, ce soit la physique, le droit, la chimie, la biologie, la sociologie.
Bon. Les mathématiques.
Bon, ou les mathématiques. Non. Un camp de base qui fait qu'on regarde le monde d'une certaine manière. Et c'est ça aussi qui fait la richesse ensuite de la société, et y compris des entreprises. Ça devrait faire la richesse des entreprises.
Un petit détail, parce que si on choisit les mathématiques, on ne fera pas de littérature.
Oui, tout à fait, mais... moi, je défendrais ce modèle en disant que si on veut pas avoir du gras mou dans la tête, il faut avoir un camp de base et une discipline, quel qu'il soit, même si c'est la filmographie.
Là, faut faire très court. Hein. Le journal de tumulte, on va faire très court effectivement pour le dernier point, la question du pouvoir d'achat des salaires. Il nous reste plus beaucoup de temps, Laurent. Bon, il y avait quelques...
Et oui, c'est toujours le pouvoir d'achat qui passe à la trappe.
Alors, les mesures Sarkozy, c'est quoi alors? Finalement, ça se résume à une philosophie qui est travailler plus pour gagner plus.
Oui, alors bref. Il y a une partie qui concerne cette philosophie, mais il y a quand même un espèce d'inventaire à la Prévert qui vaut la peine d'être un tout petit peu répété ou rappelé. Il y a cette mesure d'indexation des loyers entre deux signatures de bail, c'est-à-dire pendant la durée du bail. Indexation non plus sur le nouvel indice composite des loyers, mais sur l'inflation. Bon, ce qui devrait ralentir la hausse des loyers entre deux signatures de bail. Il y a la possibilité pour les salariés de réclamer le déblocage de leur participation exceptionnellement avant d'avoir atteint la durée normale. Pour les PME qui généralement n'ont pas de système de participation, la proposition d'offrir une prime de fin d'année qui pourrait aller jusqu'à 1 000 euros et qui serait non chargée de cotisations sociales. Il y a l'idée de majorer les heures supplémentaires dans la fonction publique comme dans le privé de 25%. Il y a l'idée de, pour les salariés, de pouvoir se faire payer les jours de RTT qu'ils n'auraient pas pris, c'est-à-dire au lieu de les prendre sous forme de RTT, de se les faire payer. Et il y a l'idée, dans certaines entreprises, de renégocier des accords dérogatoires aux accords de branche sur les 35 heures pour échanger quelques heures de travail en plus contre des augmentations de salaire. En gros, la réduction du temps de travail à l'envers, là où il y aurait des accords majoritaires signés dans les entreprises. Donc voilà un petit peu le catalogue des mesures proposées par Sarkozy pour augmenter le pouvoir d'achat.
Il y a un aspect qui reste masqué, c'est la question des salaires, les salaires eux-mêmes. On n'y touche pas en fait.
Vous êtes bons observateurs, depuis 15 ans qu'on parle du pouvoir d'achat de manière récurrente, on en parle d'autant mieux que personne ne parle d'augmenter les revenus salariaux. Bon. Donc, en fait, depuis 15 à 20 ans, lorsqu'on vous parle d'augmentation du pouvoir d'achat, c'est toujours en contournant la question principale, comment fait-on pour augmenter les revenus des personnes ? Et donc, on a affaire à des mesurettes qui sont souvent déshabiller Jacques pour habiller Paul. Hein. À partir du moment où les revenus n'augmentent pas, le pouvoir d'achat peut augmenter que par des petits artifices anticipés sur l'avenir en débloquant la participation, par exemple, faire baisser les impôts des uns, mais diminuer les services publics offerts aux autres. Donc, dès qu'on parle d'augmentation du pouvoir d'achat en dehors d'une perspective d'augmentation des revenus, on a affaire à un petit catalogue comme ça qui, tient pas beaucoup la route. Alors, il y a certains trucs qui auront peut-être des effets, mais pas fracassant. Hein. Le déblocage de la participation, ça avait déjà été proposé par Sarkozy en 2004 lorsqu'il était ministre des Finances. Et puis on s'est aperçu que les salariés en auraient épargné les deux tiers. Bon, comme relance de la consommation, il y a mieux quand même. Vous leur débloquez leur épargne et ils en réépargnent les deux tiers. Bon, donc il y a des études qui ont montré ça. Alors, il y a tout de même deux mesures intéressantes là-dedans. C'est l'histoire de l'indexation des les loyers pendant la durée du bail. Bon, mais il y aura des effets de rattrapage quand on devra resigner le bail avec le propriétaire. Donc à ce moment-là, il y aura des effets de seuil peut-être plus violents. Bon, une autre mesure intéressante, c'est la suppression de la caution réclamée par les propriétaires pour que le bien puisse être loué. Ça, c'est pas tellement une mesure qui concerne le pouvoir d'achat, mais il vaut la peine de la souligner. Parce que y a beaucoup de gens qui ont du mal à accéder à un logement, puisqu'il faut réunir, plus on est pauvre, plus il faut réunir de gens qui vous cautionnent pour le logement, et généralement plus vous êtes pauvre, plus les gens qui peuvent vous cautionner sont eux-mêmes des pauvres. Bon, donc il y a un véritable problème d'accès au logement à cet endroit-là, et on ne sait pas comment va finir la mesure, mais l'idée c'est de substituer un système de mutualisation publique de la caution aux cautions individuelles. Alors ça c'est au moins une idée extrêmement intéressante, qui est d'ailleurs réclamée par certains mouvements de défenseurs du logement, et qui permettrait peut-être de solutionner des choses. Mais il est évident que tant qu'on n'a pas de croissance et pas d'augmentation des revenus, on peut difficilement parler d'augmentation du pouvoir d'achat. Bon. Et ce qu'on n'arrive pas à dire, grosso modo, à la population, parce que celui qui parlerait comme ça, évidemment, ne se ferait pas réélire, mais que tant qu'on a un système capitaliste dominé par des entreprises elles-mêmes dominées par le point de vue des actionnaires, le point de vue des actionnaires n'est pas de faire croître les entreprises et de faire croître l'investissement olé olé. Le point de vue des actionnaires, c'est au contraire de limiter les projets d'entreprise aux investissements qui rapportent effectivement beaucoup d'argent. Et donc, depuis 20 ans, nous sommes dans une perspective de décroissance de la dynamique d'accumulation des firmes, parce que le but n'est plus accumuler, c'est faites de l'argent. Et quand on veut faire de l'argent, il faut au contraire sélectionner ces projets d'investissement de manière beaucoup plus draconienne. Donc, on est dans une perspective d'absence de croissance, ou de croissance extrêmement atone. Bon. Alors, tant qu'on est dans cette perspective-là, on ne voit pas comment débloquer l'augmentation du pouvoir d'achat.
Une interrogation quand même, est-ce que...
Des salariés, j'insiste. Ouais. Parce que pour les autres, ça va bien.
Est-ce que l'ensemble des mesures proposées par Sarkozy est de nature à relancer justement la croissance? On pourrait se dire, bon, les gens vont travailler plus pour gagner plus, quand c'est réalisable, en heures supplémentaires, en rachat, en monétisant, je ne sais plus comment ils disent, monnayant leur RTT, etc. Est-ce que ce pouvoir d'achat, entre guillemets, supplémentaire est de nature à créer les conditions d'une relance?
Bon, j'ai apparemment une minute vingt-cinq. Alors, je l'ai dit sur le déblocage de la participation, on sait déjà que c'est pas une bonne manière de faire, puisque quand on a débloqué l'épargne des salariés il y a 3 ans, ils en ont épargné les 2/3. Il y a vraiment plus efficace. Sur la prime de 1 000 euros, d'abord, elle ira pas jusqu'à 1 000 euros dans l'ensemble des PME. Donc, parfois, ce sera une prime de 50 €. Hein, donc, ça peut être un effet d'annonce. Et surtout, ça fera relativement pchit, parce que c'est un tout petit choc conjoncturel, et c'est une augmentation du pouvoir d'achat sur laquelle les salariés peuvent pas compter durablement. Donc ils vont pas relancer leur consommation de manière durable. Sur l'encouragement à faire des heures supplémentaires, c'est l'œuf et la poule, parce que pour pouvoir faire des heures supplémentaires, il faut que le carnet de commandes des entreprises augmente, et donc c'est pas les salariés qui vont décider d'augmenter les heures supplémentaires faites. Bon. Et même dans les secteurs où effectivement il y a des pénuries de main d'œuvre, alors là il est possible effectivement que les heures supplémentaires débloquent une partie du problème, mais dans les autres secteurs, si les patrons décident plutôt que d'embaucher de faire des heures supplémentaires, on aura peut-être de la croissance pour ceux qui sont en emploi, mais c'est du partage du travail à l'envers. Pour ceux qui piaffent à l'entrée, ça fait pas d'emploi en plus. Donc ce serait une croissance pour certains et sans emploi pour les autres. Et puis on peut dire la même chose sur les 35 heures, c'est du partage du travail à l'envers. Donc ceux qui réussiront à négocier 37 heures, 38 heures, 39 heures en échange de 4 à 5% de pouvoir d'achat, effectivement ceux-là ils auront vu leur pouvoir d'achat augmenter, mais il y a des gens qui piaffaient à l'entrée des entreprises et qui verront d'autant leur embauche retardée parce que on s'est satisfait d'une augmentation du temps de travail des gens qui étaient déjà en poste. Donc je suis très pessimiste sur le fait que ces mesures puissent effectivement débloquer la croissance.
Fin du journal Le Tumulte avec Guy, nous recevions Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30. Rediffusion le mercredi à 15h et à 00h30. Et n'oubliez pas sur internet radiopfm.com. Tumulte, c'est terminé. À la semaine prochaine. Ciao. We'll be right back. 21h30, vous êtes à l'écoute de Radio PFM. Tumulte, c'est bien terminé. Les programmes de Radio PFM se poursuivent dans un instant. Vous allez retrouver le magazine du Pas-de-Calais. Ciao.
Bienvenue dans le magazine des radios du Pas-de-Calais.